CFM, le mag. Le mag.
Salut à tous, le printemps commence maintenant à bien fleurir autour de nous et je vais vous parler aujourd'hui d'une plante et surtout d'une fleur qui plaît et qui étonne souvent les curieux qui se penchent un peu dessus. Il s'agit de l'orchidée. Pour la plupart, le simple nom d'orchidée évoque une plante rare, exotique, aux fleurs magnifiques. Pourtant, on en trouve partout sur le globe, excepté dans les zones glaciaires et désertiques. Il en existe de par le monde plus de 30 000 espèces, ce qui en fait la plus grande famille de plantes. Une espèce de plante sur 10 est une orchidée. La majorité des espèces sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles poussent perchées en hauteur dans les arbres. Elles ont des racines aériennes et on les trouve surtout en zone tropicale. Mais la France en compte tout de même pas moins d'une centaine d'espèces, bien terrestres celles-là, avec leurs racines bien ancrées dans le sol. Et le Tarn en compte à lui seul plus de 50 espèces. Certaines sont assez communes, comme l'orchidée abeille ou l'orchis bouc et son parfum étonnant. La plupart sont plutôt rares et protégées, citons par exemple le fameux sabot de Vénus et sa fleur piège, particulièrement étonnante. J'y reviendrai dans un instant. Si les orchidées plaisent autant, c'est bien évidemment pour leur beauté et l'originalité de leurs fleurs. Mais comme j'aime moi aussi être un peu original, je vais commencer par vous parler de leurs racines. Le nom d'orchidée vient du grec orchis, qui signifie testicule, en raison de la forme de ses racines. C'est en raison de cette ressemblance avec l'organe précité que la plante a été récoltée en masse et vendue de par le monde en tant qu'aphrodisiaque. Certaines orchidées terrestres ont en effet des organes de réserve au niveau des racines, plus ou moins en forme de testicules. Chaque année, la plante fait ses réserves dans une sorte de tubercule qu'elle utilisera l'année suivante pour sa croissance, tout en vivant sur les réserves accumulées dans un autre tubercule, produit l'année précédente, qui lui se réduit petit à petit pour finir l'année tout fripé et desséché. La plante a donc bien deux testicules, un bien dodu en réserve pour l'année suivante et un flétri utilisé pour l'année en cours. Une autre vieille croyance populaire, à peine sexiste, était qu'une femme enceinte pouvait décider du sexe de son futur enfant en mangeant l'un des testicules, de l'orchidée bien sûr. Le gros et ce sera un garçon, le petit et ce sera une fille. Toutes ces histoires ne sont bien heureusement que des légendes et l'orchidée n'est aujourd'hui plus arrachée pour ses racines. Pour ces fleurs, par contre, c'est une autre histoire. Leur beauté et leur diversité en font une plante rare, et de nombreuses espèces sont menacées d'extinction. Car en matière de diversité, la nature n'y est pas allée à la légère. Orchidées noires, blanches, jaunes, pourpres, singes, abeilles, mouches, bécasses, araignées, clowns, militaires et hommes pendus ne sont que quelques-unes de nos orchidées locales, et il y en a bien plus. En ce qui concerne sa pollinisation, on atteint là le summum de l'évolution. Ou plutôt, devrais-je dire, de la coévolution. Les plantes et les insectes ont en effet évolué ensemble pour en arriver parfois à des associations pour le moins étonnantes. Les plantes utilisent de nombreux stratagèmes pour attirer les insectes, entre autres pour leur pollinisation. Beaucoup de fleurs produisent du nectar, liquide sucré dont la plupart des insectes raffolent. Mais les orchidées n'ont pas manqué d'imagination. L'orchidée abeille, par exemple, imite la femelle d'un type bien particulier d'abeille. L'odeur d'abord, mais aussi la forme et la couleur, et même jusqu'à la pilosité de l'insecte sont reproduits à l'identique. Le mâle, berné, y reconnaissant là une séduisante femelle, s'affaire à sa tâche, récupérant en passant le pollen qu'il ira déposer sur une autre femelle factice. La reproduction de la fleur est assurée. L'insecte, qui n'y a vu que du feu, s'est fait rouler sans même s'en apercevoir. Le sabot de Vénus, parfois aussi appelé pantoufle de Notre-Dame, lui, excelle dans la technique du piégeage. Son pétale inférieur, aussi appelé labelle, est renflé et ressemble, comme son nom l'indique, à un sabot. Sa couleur, jaune vif, et son odeur, similaire là aussi aux phéromones d'un certain type d'abeille, la rendent très attractive, et ces abeilles ne se font pas prier pour se glisser à l'intérieur par une grande ouverture centrale très pratique. Mais le plaisir s'arrête là. Une fois à l'intérieur, pas de nectar. Et l'ouverture, en forme d'entonnoir, est impraticable dans l'autre sens. L'abeille se retrouve donc coincée à l'intérieur. Le piège n'est tout de même pas fatal. Le but pour la fleur n'est pas de se nourrir de l'insecte, comme c'est le cas pour les plantes carnivores, mais de le libérer, couvert de pollen, afin de l'utiliser pour sa reproduction. Pour sortir de la fleur, l'insecte va donc devoir avancer jusqu'au fond du labelle, en suivant un passage en quelque sorte balisé pour lui, guidé par des lignes tachetées, par des petits poils qui tapissent l'intérieur de la fleur, et par la lumière qui passe par une partie translucide à la base du sabot. Là, l'abeille malmenée pourra enfin emprunter un couloir étroit, frottant au passage son dos poilu contre le stigmate qui recevra ainsi le pollen pour la fécondation. À condition, bien sûr, qu'elle ait auparavant déjà été piégée, garnie de pollen, puis libérée par une autre fleur. Le but étant de ne pas polliniser la fleur avec son propre pollen. Avant la sortie du couloir, l'abeille va ensuite se frotter sur les anthères qui produisent le pollen, placées chacune de part et d'autre de ce couloir. L'insecte regagnera alors enfin l'extérieur, après un séjour forcé dans la fleur qui aura duré une dizaine de minutes, prête à être piégée par une autre fleur, assurant ainsi une pollinisation croisée. Une fois la pollinisation effectuée, les orchidées produisent donc des graines. Mais là encore, elles font dans l'originalité, puisqu'elles vont une fois de plus devoir s'associer à d'autres êtres vivants pour assurer leur pérennité. Les orchidées se fient entièrement aux champignons pour se reproduire. Les graines, minuscules, ne contiennent aucune réserve d'énergie. Il n'y a qu'un embryon, point, incapable de fabriquer le bout de racine et le bout de feuille qui lui permettrait ainsi de bien démarrer dans la vie comme le font la plupart des autres plantes. La graine va donc attendre qu'un champignon vienne pénétrer à l'intérieur de ses tissus. Là, une symbiose s'établit et on obtient ce que l'on connaît bien aujourd'hui sous le nom de mycorhize. Le champignon apporte donc le sucre dont la plante a besoin pour assurer sa croissance, mais la symbiose n'est qu'apparente, puisque le champignon qui a pénétré dans les cellules de l'orchidée pour la nourrir n'y vit que quelques jours, après quoi il est digéré. Un autre bout de champignon va donc pouvoir pénétrer la même cellule et l'histoire peut continuer jusqu'à ce que la plante ait atteint une taille suffisante pour être autonome. Ceci est le fonctionnement de base, mais il existe certains types d'orchidées qui acceptent mieux le champignon et qui développent par la suite une véritable symbiose. C'est un peu aussi la raison pour laquelle il est très difficile de cultiver des orchidées terrestres et qu'il ne sert à rien de déterrer une orchidée sauvage pour la replanter dans son jardin, ce qui est de toute façon interdit. Si les orchidées vous attirent, je vous invite plutôt à aller vous balader sur les cosses calcaires ou dans certaines prairies pâturées du Tarn autour des mois de mai et juin, et vous avez de fortes chances d'en croiser quelques-unes. À bientôt!
CFM, le mag.